Radio Okapi. Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième tranche du magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Merci à vous qui venez de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Comment bien préparer les épreuves de la grande session de l'examen d'État? Eh bien, on en parle dans cette émission avec Théophile Mompalois, psycho-éducateur, Jean Bosco Pounas, secrétaire général du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques, sera également de la partie tout à l'heure. Vous, des questions et préoccupations, composez le 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Postez également vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation. Paul Banyanyama à la mise en onde au micro. Jody Daniel Kachama.
Chers finalistes, candidats à l'examen d'État édition 2020-2021, bravo! Vous êtes à quelques pas des épreuves tant attendues. Si vous réalisez 85% ou plus, vous serez éligible à la bourse Excellentia de la Fondation Denise Nyakeru-Tshisekedi, une bourse d'études supérieures en RDC et à l'étranger. Visez l'excellence et maximisez vos chances de bénéficier de cette opportunité. Bon courage et bonne application.
Ceci est un message de la Fondation Denise Nyakeru-Tshisekedi.
Leader éclairé. Nzambe akabakate, adefisaka.
Kabila, Jeanne Kandolo.
Bienvenue dans cette deuxième tranche de Okapi Service qui s'intéresse aux préparatifs de l'examen d'État. Après les épreuves préliminaires, la grande session se profile à l'horizon. Certains candidats finalistes étudient déjà individuellement ou en groupe. Certains vont dans les maquis pour se concentrer. Par ailleurs, certains élèves comptent sur le phénomène labo pour avoir le diplôme d'État. Comment bien se préparer à affronter ces épreuves tant attendues? Nous avons en ligne le chef des travaux, Théophile Mompalois. Il est psycho-éducateur. Bonjour, monsieur Théophile.
Bonjour, Yodit.
Bienvenue dans cette émission. Alors, les enfants, les finalistes se préparent à affronter c'est déjà le dernier virage des préparatifs de l'examen d'État. Alors, en cette période, comment est-ce que les enfants peuvent encore mieux se préparer à affronter ces épreuves?
Ok, merci pour la question. Il faudra que les élèves se mettent à la disposition de leur direction d'école pour que celle-ci puisse leur désigner les encadreurs. Il y a un groupe de professeurs identifiés, que l'école identifie, qui ce groupe-là de professeurs, qu'on appelle des encadreurs, peuvent juste aider les élèves, n'est-ce pas, à pouvoir mieux se préparer pour le temps qui reste, afin d'éviter ce que vous avez appelé là-bas aussi labo. Il n'y a pas que des labos, il y a également des charlatans. Parmi les élèves, il y a beaucoup de charlatans. Ce que j'appelle des charlatans, ce sont ceux qui viennent, qui prétendent disposer de questions préparées par l'inspection générale, avec des réponses, etc. Alors, il y a également, bien sûr, le problème des labos, parce que la direction peut contrôler facilement ces enseignants-là pour que parmi eux, il y en a qui puissent ne pas pouvoir jouer le rôle de animer ce que vous appelez là-bas des laboratoires, ainsi de suite. Donc, organiser cette équipe des élèves, la même chose, organiser l'équipe des encadreurs qui devront suivre les élèves pendant le temps qui reste, afin que ceux-ci puissent initier ces élèves à la préparation aux examens d'État. Comment ils doivent le faire? Confectionner, composer un horaire bien précis, pour que peut-être l'avant-midi, que ces équipes, ces élèves-là se retrouvent avec ce que j'appelais les encadreurs, les professeurs encadreurs. Les professeurs encadreurs font une espèce de rappel sur l'essentiel de la matière qu'ils ont suivie pendant les 6 années. Et pour que ceci se passe peut-être avant-midi, et que l'après-midi, ils puissent se retrouver pour faire des exercices. Les exercices se basent sur les items, les différents items qui ont été posés les années antérieures dans les faits, qui ont apporté des réponses tout à fait plausibles, positives. Mmh. Alors, ils passent en revue ces différents items-là et les encadreurs initient les élèves à savoir comment il faut remplir ces items à partir de protocoles, un certain nombre de protocoles qui mettent à disposition de ces élèves-là. Donc, les encadreurs les aident à parcourir les protocoles avec les différentes questions qui ont été posées afin que ceux-ci puissent savoir pourquoi à cette question on a répondu, on a donné une réponse qui est une réponse positive, donc une bonne réponse. Et souvent, d'autres c'est... questions, il oui. n'y a pas eu.
Théophile Mompalois.
Voilà un peu en résumé.
Oui? Souvent, c'est ces items, les questions, c'est des choix multiples.
Oui, c'est des choix multiples. Il y a plusieurs alternatives. Et parmi les alternatives, il y a des bonnes réponses, il y a des mauvaises réponses. Alors maintenant, les encadreurs et les élèves à savoir pourquoi cette réponse-là a été retenue, tandis que l'autre n'a pas été retenue. Voilà. Alors tout cela, ça fait, il faut que les élèves puissent se rappeler un peu l'essentiel. J'ai parlé de l'essentiel, de la matière qu'ils ont suivie du point de vue théorique et cette fois, c'est la pratique, les exercices par rapport à la matière suivie, pour justifier justement pourquoi ces réponses n'ont pas été est tenue comme étant de bonnes réponses et les autres ont été rejetées comme mauvaises réponses.
Alors, généralement, la grande session porte sur quels sont les examens que les élèves vont passer durant cette grande session?
Ben, c'est l'ensemble de la matière. Il y a les cours de base, il y a les cours de base comme mathématiques, physique, tout ça, et puis il y a l'anglais, il y a aussi d'autres cours de formation générale, hein, l'anglais, etc. Donc, en fait, l'équipe des encadreurs doit parcourir l'ensemble de la matière, en mettant l'accent, bien sûr, sur la matière de base telle que le français, telle que les mathématiques, telle que la culture générale, telle que, bon, le reste, c'est considéré comme étant des cours, ce que j'appelle ici des cours secondaires, mais ce sont des cours qui sont aussi importants, des cours de culture générale tels que le français, pas le français, mais l'anglais, et puis les questions d'actualité, éducation, citoyenneté, etc. Tout ça. Voilà.
Est-ce qu'il y aura aussi la dissertation ou c'est déjà passé dans les préliminaires?
La dissertation a déjà... Parce que vous m'avez posé la question de savoir pour les 2 semaines qui restent.
Voilà. Donc la dissertation, ça, c'est déjà passé.
Les élèves vont pouvoir se focaliser pour bien préparer parce que la dissertation a déjà eu lieu.
D'accord.
Elle est déjà passée. Voilà. Donc là, ça ne fera plus l'objet de cette révision de la dernière minute. Voilà.
Bien, Charles Loyet à Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour aussi à l'EJT qui est l'expert.
Quelle est votre question par rapport aux préparatifs de l'examen d'État?
Non, moi je voulais un peu commencer par une petite condition parce qu'à ce notre moment, il a fallu surtout jouer le rôle de les élèves avec la technique et non continuer encore à dispenser la matière comme c'est le cas dans d'autres écoles telles qu'ici à Lubumbashi.
On continue à enseigner à quelques jours de l'examen.
On continue à enseigner et pourtant les difficultés récoltées sur le terrain, les élèves ne savent même pas comment remplir la réponse sur la grille de réponse. Alors, il a fallu un peu accompagner les élèves moins que pédagogiquement. Et puis, j'ai une question à poser un peu à l'invité. Même hier, j'ai reçu un peu des plaintes de mes finalistes, soit disant que non, professeur, nous nous retrouvons devant le cahier déjà rempli de 200 pages par chacun. Alors nous ne savons pas par où commencer. Qu'est-ce que les IT peuvent leur prodiguer conseil devant de tels résumés là kilométriques? Qu'est-ce qu'ils doivent préparer? Or, en sixième, rien n'est à rejeter. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Bien, merci. Serge, vous êtes à Kindou. Bonjour.
Bonjour, bonjour à l'invité, bonjour à vous, messieurs les journalistes.
Bien, quelle est votre question?
Oui, la question c'est que je voudrais d'abord appeler tous les finalistes à la retenue et étudier parce que rien ne sert à courir. Parce que si vous avez été un bon élève pendant le début de l'année jusqu'à maintenant, vous êtes un monsieur bon et vous allez passer votre examen et vous allez réussir. Maintenant, je voudrais aussi les inviter à étudier en groupe parce que les études en groupe créent de l'émulation par rapport aux études individuelles. Parce que quand on est en groupe, ça peut encore susciter. Vous pouvez encore avoir une information venant de l'ami qui pourrait un jour peut-être venir dans les examens et vous allez vous souvenir. Comme on nous dit, il y a un adage qui dit un savoir acquis reste plus gravé que le savoir conçu. En étant toi-même à la maison, vous n'allez pas concevoir tout, mais quand l'ami a conçu quelque chose et il vous dit, vous pouvez facilement retenir et ça pourrait vous servir. Aussi, chez nous, je voulais dénoncer, chez nous ici, il y a une pratique que je voulais décourager, pas dénoncer, décourager les élèves finalistes parce que il y a des églises, des sectes, je ne sais pas, des organisations religieuses qui distribuent les stylos à la veille des examens. Les examens s'organise demain, par exemple. Aujourd'hui, la nuit, hein, les élèves, les finalistes sont pris jusqu'à 22h, 23h. On distribue des stylos à chaque élève. Donc, ce sont des stylos miracles. Et les élèves pensent à la réussite miraculeuse. Maintenant, quand le résultat vient, l'élève n'est pas en mesure de dire que non, voilà, j'avais réussi parce que j'étais intelligent. L'élève dira seulement que non. C'était les stylos là, magiques. Maintenant, la question.
Ah bon? Qui donne aux élèves les stylos miracles?
ce sont les églises et les organisations religieuses qui, pendant la prière, là, on distribue des stylos, c'est les pasteurs qui payent, ou soit c'est l'église qui donne aux élèves finalistes que non, voilà, faites l'examen avec ça, tout ça, tout ça. Et maintenant, après la proclamation du résultat, vous verrez les élèves en train de prier, dire voilà, c'est grâce à ces stylos que nous avons eu, les pasteurs étaient forts, les pasteurs saints. Maintenant, ce que je voudrais aussi poser la question à l'invité, c'est pourquoi seulement nous suivons à la radio Capi les Bibles du Sahara de notre première dame, que nous voilà, elle est en train d'encourager les gens, celui qui aura 85% et plus aura accès aux bourses. Maintenant, pourquoi seulement à Kinshasa ou à Lubumbashi, où on trouve des élèves qui ont 85, 90, pendant qu'ici, il y a aussi des élèves qui ont des quotients intellectuels qui peuvent réussir? C'est la question que je voulais poser à l'invité. Pourquoi seulement à Kinshasa, où on aura les élèves qui auront 85, 95, 82%? Voilà la question. Merci beaucoup.
Merci. Théophile Mumpalo, vous avez la parole.
Je suis à vous. Bien, je voudrais répondre au premier intervenant là, qui a parlé d'une multitude de questions face auxquelles se retrouvent les élèves. C'est difficile pour pouvoir y répondre. Et puis, il a ajouté également que pendant les deux dernières semaines,
les enseignants continuent
de prendre l'ensemble des cours.
Oui, et puis il a signalé que dans certaines écoles, les enseignants continuent à donner la matière alors que...
Exact, oui. C'est ça. Eh bien, j'ai bien dit, au niveau introductif là, pour dire que le groupe d'enseignants qui a été retenu, ce groupe d'encadreurs là, la direction doit faire le choix par rapport à l'expérience, par rapport à la détermination de ces enseignants-là, c'est-à-dire ceux qui ont fait preuve par le passé, dont les élèves, la plupart des temps, réussissent à leurs épreuves, etc. Donc, ils doivent faire le choix de ces encadreurs-là, bien ciblés, de telle sorte que les encadreurs savent quel est l'essentiel de la matière qu'il faut rappeler, en guise de rappel. C'est pas aller donner de nouvelles matières, puisque les élèves ont eu le temps de suivre ça pendant l'année. Donc, les encadreurs doivent cibler l'essentiel de la matière, faire rappel par rapport aux difficultés des élèves, et puis faire des exercices. Et ils savent aussi quels sont les exercices qui peuvent être considérés comme étant des tuyaux. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'étude en groupe, bon, ça c'était une suggestion, bon, ça crée l'émulation, c'est tout à fait normal. Les stylos miracles, il n'y a pas de stylos miracles.
Stylos miracles pour répondre à toutes les questions.
Oui, en tout cas, j'ai parlé des charlatans. Les charlatans sont partout, même au niveau des églises, là, tellement qu'il y a la prière qui prend de plus en plus des dimensions incontrôlables dans notre pays. Les jeunes, parfois, sont naïfs, ils croient n'importe quoi. Ils croient que le fait de prier va leur garantir la réussite. Non. Les écoles, les responsables d'école doivent être très vigilants, ouvrir l'œil et le bon pour dire aux élèves qu'il n'y a pas de miracle, d'autres miracles que l'étude, et pas le BIC. Le BIC, là, c'est tout à fait imaginaire, etc. Alors, pour répondre au dernier intervenant là, qui a parlé de la proposition de la fondation Maman...
Bon, il y a d'abord Serge qui a dit, qui a conseillé les élèves à étudier aussi en groupe. Quand tu étudies avec les amis, il y a des matières que tu ne maîtrises pas et que les autres peuvent t'aider à bien comprendre.
Oh oui, pour le groupe, c'est tout à fait normal. J'ai dit que ça crée l'émulation. C'est tout à fait normal. Ils doivent travailler en groupe. Et c'est comme ça qu'on doit les encourager à travailler justement dans ce groupe-là, sous la supervision des encadreurs, des professeurs encadreurs. Pourquoi? Parce que les professeurs encadreurs les aident à découvrir pourquoi telle réponse a été retenue, pourquoi ça a été rejeté, ainsi de suite. Et ça crée l'émulation parce qu'ils ne sont pas... Ils ne sont pas de façon individuelle, ils travaillent en groupe, de façon collective. Alors cela doit éveiller en eux un certain effort qui est collectif, qui est individuel également, pour qu'ils puissent, créer la confiance en eux et répondre en conséquence lorsque le jour viendra. Voilà un peu l'avantage de travail en groupe. Voilà ce que je peux dire. Alors, en ce qui concerne les stylos miracles, j'ai déjà répondu là-dessus. Il n'y a pas de miracle en dehors de l'étude. Et en ce qui concerne la proposition de la Fondation Maman...
La bourse de la Fondation, la bourse, oui, oui.
La bourse. Vous savez, je suis mal placé pour y répondre, mais je peux faire une suggestion, parce que je ne fais pas partie de cette fondation-là, mais je vois en tant qu'éducateur comment les choses évoluent, comme l'intervenant l'a soulevé. Peut-être qu'ils sont encore dans leur début. Ils savent que ce pays est tellement grand, il faut commencer quelque part. Quelque part, c'est où? On commence d'abord par peut-être la capitale qui est le miroir de l'ensemble du pays. Le reste, ça viendra. Nous ne pouvons pas être pressés pour dire, voilà, on pense que...
Bon, c'est qui est vrai que la bourse, oui, ne concerne pas seulement ceux qui sont dans la capitale, mais tous les élèves qui obtiennent plus de 85% à travers le pays.
Oui.
Bien, nous avons un ingénieur académique, Ngaba, voilà, c'est comme ça qu'il appelle, qui s'appelle depuis Kisangani, qui nous a écrit sur Facebook. Il dit ceci, la meilleure façon de mieux préparer l'examen d'État est que tous les finalistes, d'abord ils doivent avoir confiance en eux-mêmes. Et ils doivent savoir que la réussite ne vient ni par la corruption, ni par la fuite des items qu'on va les envoyer. Ils doivent considérer les matières acquises depuis leur cursus, tout le long de leur cursus scolaire, et mettre cela en pratique. L'examen d'État n'est qu'une simple évaluation. Qu'ils aient confiance en eux-mêmes, n'est pas compter sur les fuites ou sur toutes ces... Ces labos, voilà, et les mercenaires qui viennent travailler à leur place. Professeur, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette... Votre réaction par rapport à ce que nous a dit...
Je ne peux qu'encourager cette suggestion-là. Je ne peux qu'encourager cette suggestion. J'ai insisté pour dire aux élèves, c'est le travail qui compte. Ils doivent travailler, doivent étudier en fonction de ce qu'ils ont suivi comme matière pendant les 6 années. Eh bien, ils doivent étudier parce que au bout de cette étude interviendra la réussite. Ils ne peuvent pas compter sur les mercenaires ni sur les charlatans qui viennent prétendre que voilà, j'ai déjà l'essentiel des items qui ont été posés, qui ont été retenus par l'inspection générale, donc vous n'avez qu'à vous fier. Moi, je vous présente, moi, votre ami, votre camarade, et non ce que vous disent les professeurs encadreurs. Parce que les élèves, vous savez, avec... Le conflit des générations, les élèves ont tendance à suivre des bêtises mises par leurs camarades, au détriment de ce que peut-être les enseignants, les encadreurs peuvent leur dire. Alors ils doivent, les encadreurs, l'école, les responsables d'école doivent insister là-dessus. Pour dire qu'il s'agit des examens d'État, eh bien, ça se passe en principe une fois. Dans la vie, la plupart d'entre nous, il faut être sérieux. Et pour être sérieux, ne suivre les conseils prodigués par vos encadreurs. Et non suivre ce que les charlatans peuvent vous dire, ou bien certaines églises peuvent vous proposer comme solution miracle. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette préoccupation.
François Ngaloumé nous a écrit depuis le Kassai central. Nous n'encourageons pas l'étude en groupe à cause de Covid. En plus, les finalistes qui vont au maquis ne vont pas étudier, ils vont pour se cotiser et mettre l'argent ensemble pour acheter les examens. Alors, ils demandent à tous les finalistes de rester, que chacun prépare ses examens à la maison. Théophile Montpalo.
Je suis à vous. Il y a une certaine baisse de la Covid. Vous avez suivi, je crois qu'ils ont suivi ça. Je ne parle pas de vous, le journaliste, je parle plutôt de ceux qui sont intervenus. Il y a une certaine baisse de cette Covid-là. Ça ne peut pas nous empêcher de travailler. Nous devons apprendre à vivre avec. Eh bien, on ne peut pas abandonner les élèves comme ça pour dire à cause de la Covid, vous restez travailler seul. Non, vous risquez de préparer leur échec et ça sera trop tard. Vous allez vous rattraper. Eh bien, on prend des mesures qui ont été préconisées par le gouvernement. On demande aux élèves de se retrouver en groupe peut-être d'une bonne vingtaine d'élèves bien séparés entre eux avec des masques. Et puis, les enseignants, mêmement, et la matière passe. Hein? Comment nous faisons à l'université ici? Moi, je viens d'un auditoire, j'enseignais groupe d'une cinquantaine d'élèves. Tous sont protégés par les mesures barrières, etc. Tout ça, il y a des désinfectants.
Oui.
On ne peut pas sacrifier nos élèves, nos enfants.
Théophile Mpalo, pendant cette période, il y a les responsables d'établissement qui demandent aux élèves de se cotiser, de donner l'argent des suivis. Et les élèves, entre eux aussi, ils font des cotisations pour réunir l'argent qui va servir à corrompre les surveillants et à les neutraliser.
Ça, ce sont les aspects tout à fait à déplorer. Notre pays est... Mais pourquoi la présence de l'IGF aujourd'hui? Ben, je crois que c'est ce travail que fait l'IGF doit se passer à tous les niveaux, hein, toutes les structures. Faut pas que ce soit seulement au niveau de la macro-structure, au micro aussi, au niveau des micro-structures également. Hein. Les responsables d'école doivent ouvrir l'œil, que des choses comme ça ne se passent pas. Et nos inspecteurs, je crois que c'est le travail qu'ils ont eu à faire, ils doivent ouvrir également l'œil, observer qui fait quoi, etc. Ce sont les à côté qu'on ne peut pas vulgariser. Hein? Non, on ne peut pas. Aujourd'hui, on dit que le pays est en difficulté, etc. Tout ça, les gens ne sont pas bien payés. Alors vous allez demander encore aux élèves de se cotiser. Non, moi j'ai eu des élèves qui ont fait les examens d'État, il n'y a pas eu des choses comme ça. Non, il faut éviter ça. Il faut éviter.
Voilà. Bien, nous invitons également les élèves, chers finalistes, vous nous écoutez à travers le pays, appelez pour participer à cette émission. Dites-nous comment vous vous préparez, comment ça se passe là où vous êtes. Eh bien, appelez au 081 890 63 94.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Comment bien préparer les épreuves de la grande session de l'examen d'État? Nous avons en ligne Théophile Mpalo, chef des travaux, psycho-éducateur. Charlie Abel nous a écrit depuis Matadi. Les élèves finalistes doivent avoir le courage et considérer les examens d'État comme tout autre examen. Ils doivent maîtriser comment remplir les items, car ça fait partie de la réussite. Gérer ses émotions dans la salle des examens. Ils doivent avoir confiance en eux-mêmes, car c'est ton diplôme. Tu seras obligé de défendre ça partout. Les compositeurs de cet examen doivent poser les questions, doivent aussi poser des questions équilibrées. Théophile Mpalo, votre réaction?
Oui, les examens d'État, leur contenu est conforme au programme. Le programme, quel programme? Le programme national, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des questions qui sont posées en dehors de ce programme-là. Si les élèves suivent ce programme conformément à ce qui a été établi, il n'y a pas à craindre. Au contraire, ils doivent avoir confiance en eux-mêmes, ils doivent savoir surtout, comme a dit l'intervenant de tout à l'heure là, remplir le protocole. Si vous remplissez ce protocole avec beaucoup d'erreurs, on écarte cela, on va les écarter. Vous serez déjà victime de l'échec au départ. Donc, les encadreurs sont là pour initier ces élèves-là à savoir remplir ces protocoles. Deuxièmement, avoir comment il faut répondre aux différentes questions, aux différents items qui ont été posés à travers ce protocole-là. Comment il faut cocher quand il s'agit de oui, comment il faut, ainsi de suite. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Donc, avoir confiance en eux-mêmes, ne pas avoir peur, et puis ce sont des examens. S'ils ont peur maintenant à passer ces examens-là, combien d'examens les attendent devant eux avant le boulot? Je ne sais pas. C'est plusieurs. C'est le cas, n'est-ce pas, Jody? Vous avez passé combien d'années avec des examens? Je me souviens quand j'étais à l'école secondaire, il y a un Belge qui nous donnait cours de maths qui nous disait, il ne faut pas avoir peur maintenant. Si vous avez peur maintenant, combien d'examens qui vous attendent devant, avant la fin? Oui. La même chose, il faut être confiant. On a suivi le programme, les questions sont posées en fonction de ce programme suivi, eh bien, ça reflète à nous une certaine confiance. Au contraire, je serais curieux d'aller passer cet examen-là quand je sais que j'ai suivi le programme conformément à ce qui a été décidé par le gouvernement.
Théophile Mpalo, généralement, les élèves n'ont pas confiance en eux-mêmes. Peut-être à l'école, ils savent que dans la classe, il y a 2-3 élèves qui sont très intelligents. Et lorsqu'ils sont dans la salle et qu'ils ont déjà neutralisé par la corruption le surveillant. Bon, ce sont ces élèves intelligents là qui donnent, qui distribuent des réponses à tout le monde et ils se mettent à tous à recopier les mêmes choses.
Oui, c'est toujours les à côté. Hein. On dit, il y a un proverbe qui dit que là où il y a des hommes, il y a des homéries. Ce sont des homéries qu'on peut décrier, justement les à côté du comportement. Et ici, pendant l'année, les responsables d'école, en commençant par le chef d'établissement, le directeur des études, le conseiller, ces différents conseillers et les titulaires de classe, doivent insister là-dessus. Pas question d'être attentif à ce que vous propose n'importe quel charlatan. Même ceux qui réussissent bien, il y a des charlatans parmi eux, pourquoi pas. Il ne faut pas suivre ça, il faut suivre la matière que vous avez eue pendant l'année, répondre en connaissance de cause, et ne pas vous mettre à la disposition de ces finalistes-là qui viennent déranger, qui risquent de vous décourager. Voilà, c'est ça, il faut dire à nos élèves, et insister là-dessus, parce que c'est adolescents. Il y en a qui peuvent suivre, il y en a qui ne peuvent pas suivre, mais ayez confiance en eux, ils doivent avoir aussi confiance en vous, c'est la façon dont vous allez procéder pour vous comporter devant eux, qui conditionnera, n'est-ce pas, leur suivi ou non.
Bien, Théophile Mompalo, oui. Chef des travaux, psycho-éducateur. Merci, oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup, Yodi.
Excellente journée.
À la prochaine.
À la prochaine.
À la prochaine. Okapi.
Bien, nous allons accueillir à présent Jean Bosco Pouna. Il est secrétaire général du Syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques, SINECAT. Jean Bosco Pouna, bonjour. Jean Bosco Pouna, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Alors, nous parlons des préparatifs de la grande session de l'examen d'État. C'est déjà, on peut dire, le dernier virage. Alors, pendant cette période, comment les élèves peuvent encore mieux se préparer à affronter les épreuves?
Bon, mais il faut déjà dire que il faut qu'on arrive à démystifier l'examen d'État. Il faut que nos élèves comprennent que l'examen d'État, c'est comme tout autre examen qu'ils passent dans des salles de classe. C'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle la préparation lointaine et la préparation immédiate. La préparation lointaine, eh bien, c'est tout ce qu'ils ont fait au niveau des différentes classes qu'ils ont gravies, au niveau du cursus. Donc, il n'y a pas de problème. La préparation immédiate, mais c'est celle-là relative à la classe de quatrième année, sixième année autrefois, à la classe donc là où ils sont aujourd'hui. Donc, il n'y a pas à avoir peur. La première chose, c'est que ils doivent se rendre bien compte que l'examen d'État, c'est comme tout autre examen qu'ils font en classe, quoique l'examen d'État soit une évaluation certificative. C'est ça peut-être la différence. Parce qu'avec l'examen d'État, ça va vous donner la possibilité de pouvoir avoir un parchemin, d'avoir le bac, les diplômes. Mais en tout état de cause, l'examen d'État, c'est une évaluation et ils doivent être sereins, ils doivent garder la sérénité, travailler calmement comme ils ont toujours travaillé en classe. Alors, ce qu'ils doivent faire pendant cette période, je crois que il ne nous reste que quelques temps pour commencer l'examen d'État dans quelques semaines. Et donc, ils ne vont pas continuer à se casser la tête. Il y a des élèves qui sont encadrés au niveau de leurs écoles, juste répéter ce qu'ils ont vu en classe, mais aussi répéter les anciennes matières, ça c'est tout à fait normal. Et attendre l'examen venir, mais à une semaine de l'examen, je crois que les élèves doivent véritablement se reposer pour garder toute leur quiétude. Voilà ce que je peux dire.
Donc en cette période, il faut plus se reposer.
Plus se reposer, parce qu'ils ont déjà donné le meilleur d'eux-mêmes. Je dirais que maintenant, ce sont des ajustements. Il y a des écoles qui organisent le cours d'encadrement pour ne pas relâcher l'entrain. Eh bien, c'est tout à fait normal. Mais laissez-moi vous dire que l'examen d'État reste une épreuve, une évaluation, comme on le fait à l'école. Donc pendant cette période, en tout cas, les enfants, ils doivent faire les sports, c'est très recommandé. Bon, ils peuvent s'occuper aux tâches de la maison, faire les jardins par exemple, mais de temps à autre, eh bien, ils peuvent jeter un coup d'œil sur ce qu'ils ont vu. Alors, mais au niveau des écoles, je crois que cet encadrement, pour les écoles qui ont reçu les élèves, cet encadrement doit aller jusqu'à une semaine avant les épreuves. Comme l'examen commence le 30, eh bien, la semaine qui vient là, il faut laisser les enfants se reposer pour que, qu'il n'y ait pas de confusion dans leur tête.
Bénice nous appelle depuis Diofa, Meshak et Takindou. Bénice, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question, Bénice?
Bon, je voudrais maintenant encourager les élèves finalistes à propos des épreuves qui vont se tenir le 30 août et d'être calme, tel que le monsieur syndicaliste est en train de le dire, d'être calme, de veiller aussi. Il ne faut pas être trop pris. Non, on doit voir que non, ce sont les examens comme tous les autres examens qui se passent souvent dans les écoles et à ne pas être effrayé ou d'avoir peur ou bien c'est quelque chose qui va tomber du ciel. C'est d'être calme, d'être constant dans leur matière qu'il avait pris dans l'école. C'est ça le, mon contribution que j'avais voulu de contribuer.
Merci Bénice depuis Diofa. Meshak de Kindou, bonjour.
Meshak de Kindou, bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Bonjour.
Mais chaque, veuillez diminuer le volume de votre radio pour éviter le feedback à l'antenne. D'accord, c'est fait.
J'aimerais demander si dans décembre de l'examen d'État, si là, il faut encore respecter les normes du coronavirus, si on souhaite porter les masques au cas de passation des examens d'État. Aussi,
oui.
Si on recommande combien de personnes dans une salle des épreuves.
D'accord, merci. Jean Bosco Pouna.
Je crois qu'il n'a pas tort de poser cette question. C'est une manière pour nous de pouvoir réveiller les élèves. Eh bien, il faut respecter les normes contre la COVID, ça c'est clair. Donc tous les élèves qui vont devoir se présenter au centre d'examen d'État auront leur masque, rien à faire. Si vous ne l'avez pas, je crois que ils seront butés à quelques difficultés. La deuxième chose, je crois que les mesures de distanciation seront bel et bien respectées. Il y a eu des dispositions pour que ces mesures soient respectées parce que l'examen d'État ne va pas donner l'occasion à pouvoir contracter la maladie, sinon ça ne sera pas bon. Donc les mesures barrières seront de mise. Et je crois que même à l'entrée des différents centres, on va devoir ériger les dispositifs lavage-main pour que les élèves commencent par là, portent leur masque et puissent affronter l'examen d'État. En fait, la COVID, maintenant, nous vivons avec la maladie. Il faudrait que chaque parent ait ça à l'esprit. Les enfants qui vont aller à l'examen d'État, les parents doivent les préparer par rapport à ça pour qu'ils comprennent que ils doivent absolument et strictement respecter les mesures barrières. Et même les surveillants, les chefs de centre, les superviseurs, personne en tout cas ne va se dérober à cette règle. Il faut absolument que nos enfants travaillent dans la sécurité sanitaire la plus absolue.
Bien, Jean Bosco, il y a certains élèves en cette période qui se cassent en mille morceaux, ils étudient toute la nuit, si le sommeil arrive, on met les pieds dans l'eau pour ne pas dormir, parce qu'il faut vraiment absolument étudier, et puis tout revoir, alors que la matière est aussi très abondante. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Bon, déjà, il faut leur dire que la matière est très abondante, mais la matière à l'examen d'État, c'est pas seulement la matière de la sixième année. Donc c'est une somme, c'est en fait ce qu'on appelle l'évaluation formative. Dans le cursus scolaire, l'examinateur ne choisit pas. On suppose que l'enfant qui est arrivé au niveau de la sixième année, il a magasiné un certain nombre de connaissances à partir de la première année. Je vais prendre peut-être la limite, la première année secondaire, ce qui est la septième aujourd'hui. Donc ce sont ces questions-là qui peuvent revenir, y compris les questions de la sixième année. Donc il n'y a pas lieu en ce moment, en tout cas, de pouvoir se casser la tête, parce que sinon, ils vont très mal travailler, ça sera de la contre-performance. Nous disons simplement aux élèves, j'ai dit ici qu'absolument ils doivent faire le sport pendant ce temps parce que ça les met en confiance. Vous savez que le sport chasse le stress, c'est quelque chose de très positif pour eux. Mais aussi, on ne dit pas qu'ils ne peuvent pas, de temps en temps, en groupe ou seuls, réviser les quelques questions qu'ils ont, parce qu'ils se préparent aussi par rapport à ça, mais commencer maintenant, à cette période, revoir la chimie, les mathématiques, ne pas dormir, mettre les pieds dans l'eau, non. Là, je crois que ça sera très mal vu, ça ne sera pas de bonnes pratiques pour eux. Ils doivent garder la sérénité, tout a été déjà fait. Je crois qu'en une semaine, on ne peut plus changer la donne. Donc, ils doivent avoir confiance et aller affronter l'examen d'État. On a rappelé ici que l'examen d'État, qui n'est qu'une évaluation, est l'émanation de l'étape qu'on appelle la programmation. C'est-à-dire que tout a été programmé par le législateur. Et au niveau donc du législateur, le programme d'enseignement est donné à l'enseignant. L'enseignant le traduit en prévision des matières. Et maintenant, c'est l'étape de pouvoir évaluer les élèves. Donc, on recourt au programme d'enseignement qui existe. Les élèves, nos élèves doivent comprendre qu'il n'y aura pas de questions qui viendront du ciel. Non, ce sont les questions au quotidien, les questions qui leur sont familières, qui seront posées. Et d'ailleurs, c'est notre cri d'alarme pour que, même au niveau des examinateurs, au niveau de l'inspection, qu'on ne mystifie pas l'examen d'État. Parce que ce n'est qu'une évaluation. L'élève qui s'est véritablement bien préparé, à coup sûr, il va faire des bons points. Mais l'élève qui ne s'est pas bien préparé, eh bien, ça sera peut-être une remise en question pour que la fois prochaine, qu'il puisse bien faire. Donc, c'est tout ce qu'on peut leur donner comme conseil. Ils doivent surtout garder la sérénité et faire du sport pour chasser la peur. Je crois qu'avec ces ingrédients-là, ça pourra leur permettre de bien faire le travail.
Bien, pendant cette période, ils sont aussi, ils sont également sous pression. Parce qu'à part les études, il y a des cotisations qui se font en cette période, les chefs d'établissement qui demandent l'argent de suivi, les élèves eux-mêmes qui se cotisent pour corrompre, neutraliser les surveillants, l'argent après les examens, ils vont s'organiser, certains vont boire, prendre la bière dans des bars, ils déchirent les chemises et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
Bon, il faut dire que c'est ça, malheureusement, les contrastes de cet examen d'État. Vous savez que l'examen d'État, c'est l'épreuve la plus prestigieuse que nous ayons dans notre système éducatif. Aujourd'hui, l'image est un peu ternie, parce que nous devrons le reconnaître. Nous tous, nous savons dans quelles conditions se passe l'examen d'État aujourd'hui. C'est un contraste qu'on doit absolument corriger. Il faut que, de plus en plus, nous allions vers l'amélioration de l'examen d'État. Parce que la fraude, les pratiques de fraude ou les pratiques de tricher, toutes ces pratiques-là doivent disparaître. Pourquoi les élèves doivent-ils cotiser de l'argent afin de pouvoir le donner aux surveillants, etc. Je crois que ce sont des pratiques que nous devrons décourager. Il y a également ce qu'on appelle le phénomène labo. Toutes ces choses-là doivent être vraiment découragées. Je crois que le ministre et toute son équipe doivent travailler dans ce sens-là. Parce que sinon, eh bien, ça sera toujours un problème. Vous avez des élèves qui n'ont pas véritablement un niveau, mais qui vont faire des résultats exorbitants à l'examen d'État. Hein, ça ne nous honore pas. Donc, il faut que les élèves comprennent que tout a été déjà fait. Et que d'ailleurs, nous sommes dans un contexte de gratuité. On avait déjà demandé, je crois qu'on a demandé 85 dollars pour passer cette épreuve d'État. C'est déjà énorme ce que les parents ont dû payer. Évidemment, là, je parle de la ville de Kinshasa. Eh bien, si on doit encore recourir à ces cotisations pour gagner une certaine confiance des surveillants, je crois que ce sont de mauvaises choses. Et l'autre contraste, ce sont les surveillants, malheureusement. Les surveillants, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à avoir de très bons surveillants. Parce que l'examen d'État, l'ordonnance instituant l'examen d'État, revient sur la qualité des surveillants. Les surveillants doivent être recrutés au niveau des enseignants de l'école primaire. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas.
Ce sont les membres des partis politiques qui viennent surveiller les examens.
Oui, mais ça, je crois que ce sont des choses qu'on doit décourager. Il faut absolument que ces choses-là s'arrêtent pour que nous ayons un véritable diplôme, un véritable examen d'État. Parce que si on recourt aux charlatans, on recourt aux quadros, eh bien, vous savez que ceux-là, quand ils viennent, c'est pour rafler, c'est pour avoir l'argent. Ils vont faciliter la fraude et je crois que ce n'est pas bon. Parce que si c'est l'enseignant de l'école primaire, il y a des critères pour surveiller l'examen d'État. Le premier critère, il faut avoir la personnalité. Le deuxième critère, il faut connaître la psychologie des apprenants, avoir l'œil du maître et puis maîtriser les principes d'encadrement des foules. Mais tous ces surveillants qu'on recrute à gauche, à droite, en désordre parmi les militants, je crois que c'est un tort à l'examen d'État et les élèves sont les premiers à voir que vraiment c'est mal fait. Quand ils reviennent à la maison, ils nous disent « nous avons cotisé », je crois que ça n'honore pas l'enseignement et ça n'honore pas le travail du maître. Ça n'honore pas le travail de l'inspecteur.
On va accueillir Daniel, il est candidat finaliste de Bounia. Bonjour Daniel. Ah désolé, il n'est plus en ligne. Alors, il y a un auditeur qui nous a écrit, on a demandé à l'enfant de notre femme de ménage $200 comme frais de participation. Jean Bosco Pouna, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette préoccupation?
Bon, mais il faut qu'on arrive à identifier l'école. Je crois qu'il y a des promoteurs qui en profitent, il y a des chefs d'établissement qui en profitent. Les rendez-vous, l'examen d'État, c'est un rendez-vous parfois pour se faire de l'argent. Il faut vraiment décourager cela. 200 dollars, à ma connaissance, je crois que c'est vraiment exagéré. Je ne sais pas, c'est réparti comment, d'où ça peut venir. Non, je crois qu'il faut que, si on est au niveau des provinces, il faut que les provinces ouvrent vraiment les yeux pour traquer tous ces chefs d'établissement véreux, ces promoteurs véreux, parce que c'est de l'escroquerie. Vous allez prendre beaucoup d'argent auprès des élèves et après vous leur donnez un diplôme qui ne seront pas défendre. Et je crois que ce sont des choses que nous devrons vraiment condamner.
Bien, on va accueillir Justin Calabia depuis Arou. Bonjour Justin. Justin depuis Arou, bonjour. Bien, Justin n'est plus en ligne. Bien, Jean Bosco, en cette période, il y a certains élèves aussi qui s'adonnent à la prière pour demander l'aide du ciel afin de bien travailler pour réussir. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Ben, la prière, oui, mais il faut prier chaque jour. Il faut pas attendre l'examen d'État pour aller dans des veillées de prière. Je crois qu'il faut, nos élèves doivent comprendre qu'il y a lieu de dissocier la science et la religion. Je crois que ça ne marche pas de pair. C'est vrai que dans la formation que nous leur donnons, c'est une formation intégrale, c'est-à-dire c'est la formation intellectuelle, la formation morale, la formation sociale, la formation religieuse. Ça, ce sont des aspects de la formation pour faire un homme complet. Et donc, nous apprenons à nos enfants, à nos apprenants, à nos élèves, qu'ils doivent respecter, qu'ils doivent connaître que Dieu est là et que c'est Dieu qui est l'émanation de tout. Mais par ailleurs, ici, lorsqu'on parle de l'examen d'État, c'est la science. Vous n'allez pas remplacer la chimie par la religion, les mathématiques par la religion, ou encore l'anglais, tout ce qu'il y a comme discipline. Donc, il faut allier, je crois, la religion. Là, j'ai déjà dit que non, Dieu, mais c'est tous les jours que l'enfant doit prier. Mais maintenant, là, l'accent doit être mis particulièrement sur les épreuves. Et là, c'est un aspect scientifique de la question qu'on aborde. Donc, un enfant qui va rester pendant tout ce temps en train de glorifier Dieu, en train de prier, simplement pour cet intérêt-là de pouvoir réussir à l'examen d'État, je crois d'ailleurs il sera un faux chrétien, il doit véritablement se préparer, nous l'avions dit. Ils ont commencé par les hors-sessions. Les hors-sessions, je crois c'est une étape déjà tournée. Maintenant, c'est la session ordinaire. Donc, il y a des points qu'on va récupérer au niveau de la session des hors-sessions et puis la session ordinaire. Tout ça, ça n'a rien à voir avec la religion. Donc, ils doivent véritablement se préparer, mais ne pas avoir peur, aller sans beaucoup de crainte. Là où il y a une exagération dans la fixation des frais, je crois que nos élèves, on doit leur apprendre aussi à savoir dénoncer. Parce que demain, ils seront versés dans la société. S'ils ne savent pas dénoncer les abus, je crois qu'ils seront des complices. Donc, prier, oui, mais je crois que ce n'est pas à confondre avec la science qui les attend dans quelques semaines.
Bien, Lévi Ndomba, depuis la province de la Mongala, il dit l'éducation des élèves est mise en danger parce que les préfets des études encouragent la corruption à tous les niveaux. Ils demandent l'argent aux élèves pour le E13, et le labo, et du coup les élèves n'ont plus envie d'étudier, ils se préparent plus parce qu'ils savent que le préfet va s'occuper de tout.
Oui, mais vraiment c'est ça le scandale de l'examen d'État. Je sais pas, notre société doit tout faire pour changer, parce que regardez, lorsque l'élève parle de E13, mais il a raison, les E13 sont des points fantaisistes qui sont donnés aux élèves. Du coup, les élèves, quand ils arrivent en sixième année, eh bien, ils n'ont plus envie de travailler parce qu'ils savent que tout ce qu'ils vont faire à l'école, eh bien, ça sera édulcoré. On va devoir arranger pour que chaque élève n'échoue pas au niveau de l'école. Donc, on prépare une moyenne qu'on va devoir verser au niveau de l'inspection. Parmi les innovations que nous avons proposées à l'inspection, il y a par exemple cette approche-là des E13. Il faut que l'enfant qui arrive en sixième année sache qu'il continue sa formation. La sixième année, c'est toute une année. Il ne doit pas passer cette année comme ça, dans la complaisance. Je crois que notre apprenant a raison de fustiger les E13 et les inspecteurs ne doivent pas être honorés lorsqu'on fait des arrangements pour donner des points aux élèves, les points de l'école. Ça, c'est quelque chose vraiment que nous condamnons.
Bien, Jean Bosco Pouna, secrétaire général du SINECAT, Syndicat National des Enseignants des Écoles Conventionnelles Catholiques. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler des préparatifs de la grande session de l'examen d'État. Excellente journée et à la prochaine.
Merci. Chers auditeurs, c'est par ici que s'achève ce magazine de la vie au quotidien. Au Capi Service, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.